Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Jacqueline Voraz au micro de Radio IDFM avec Sabrina à la technique. Bonjour Sabrina. Bienvenue, merci d'être à notre écoute dans ce nouveau numéro de l'économie en direct sur IDFM Radio 98 ou bien sûr 98.fr. Aujourd'hui, vendredi 25 novembre, nous avons choisi de vous parler littérature et patrimoine avec le Salon du Livre de Beaumont-sur-Oise qui aura lieu ce dimanche 27 novembre de 10h à 18h sur le thème « Le livre historique Île-de-France ». L'occasion pour nous de découvrir des auteurs et auteures et leurs derniers ouvrages. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans nos studios Fabrice Milleraud. Bonjour Fabrice.
Bonjour.
Merci pour votre présence sur Radio IDFM.
Avec plaisir.
Vous êtes vice-président du Cercle Beaumontois du Patrimoine, aujourd'hui maire honoraire de Beaumont-sur-Oise, un mandat que vous avez exercé de 1989 à 2014. Vice-président de l'Association des Petites Villes de France, APVF, de 1990 à 2014. Conseiller général du Val d'Oise de 1992 à 1998. Vous êtes également, et c'est ce qui nous intéresse ce matin, auteur de 11 livres sur l'histoire de Beaumont-sur-Oise. Très attaché à votre ville natale, vous allez nous servir de guide à travers vos ouvrages et nous dire toute l'importance de cette deuxième édition de ce Salon du Livre qui se tiendra dimanche de 10h à 18h à Beaumont-sur-Oise. À vos côtés, Marlène Erlem. Bonjour Marlène.
Bonjour.
Ravie de vous accueillir dans l'émission.
Ravie d'être là.
Marlène, vous êtes professeure d'histoire-géographie, adjointe à la culture, au patrimoine et aux festivités depuis juillet 2020 de Beaumont-sur-Oise. Et à ce titre, nous reparlerons d'un fait majeur pour la ville de Beaumont-sur-Oise, puisque cette commune fête cette année ses 1000 ans d'histoire. L'occasion de souligner toute l'importance du patrimoine dans une municipalité particulièrement riche à Beaumont-sur-Oise et qui vient s'inscrire dans ce Salon du Livre. À vos côtés, Erem. Bonjour Erem.
Bonjour.
Ravie également de vous accueillir dans nos studios.
Ravie aussi d'être là, merci.
Dans la vie professionnelle, vous êtes enseignante et à vos heures perdues, auteur sous ce pseudo de Erem. Une passion dont vous aimeriez vivre à 100%. Vous nous raconterez le point de départ de cette passion et ce qui vous inspire pour l'assouvir. Bienvenue et merci pour votre présence à l'économie en direct sur Radio IDFM 98 ou 98.fr, une émission que vous retrouverez dans son intégralité en podcast sur le site de la radio idfm.fr. Avant de vous donner la parole, nous allons retrouver au téléphone Madame Florence Gallier, secrétaire générale adjointe de la Chambre des métiers de l'artisanat Île-de-France, sponsor principal de Brieux Maisonneuve, notre skipper de la route du Rhum dont la course s'est stoppée brutalement. Bonjour Florence, merci d'être au rendez-vous.
Bonjour Jacqueline, bonjour à tous.
Donc dimanche 13 novembre, alors qu'il était en tête de sa catégorie multi-Rhum, le catamaran de Brieux Maisonneuve a chaviré, une situation qui nous a tous plongés dans une véritable angoisse.
Oui, tout à fait. Se replonger dans les souvenirs de dimanche matin, c'est toujours compliqué. Il y avait vraiment beaucoup de stress. J'aurais tendance à dire qu'on a très vite compris qu'il y avait un souci parce que on n'avait plus sa position depuis 7h30. Donc voilà, les présidents des différentes chambres de métiers qui suivaient cette progression avec intérêt ont tout de suite senti que c'était compliqué. Et puis moi j'ai eu l'appel d'Anne Maisonneuve sur mon téléphone et j'ai compris que c'était grave. Et on a eu après quelques heures d'angoisse avant de savoir que Jean-Pierre Bic l'avait récupéré sain et sauf.
Oui, Anne Maisonneuve qui est l'épouse hein, de Brieux. Et donc Jean-Pierre Dick, c'est aussi un participant de la route du Rhum qui, à qui la direction de la route du Rhum lui a demandé de se détourner pour aller récupérer Brieux. Brieux, nous l'avons eu ce matin, donc qui est bien sûr pas très bien moralement, hein, puisque pour le moment il ne sait pas où est son bateau. Moi, je voulais revenir aussi sur vous avez fait une publication vraiment très touchante quand on a su qu'il avait été retrouvé. Voilà, je voulais vous remercier publiquement de ces mots très touchants, Florence.
Merci Jacqueline. Alors c'est vrai que quand on rentre dans un projet comme celui-ci, qui est davantage un projet de partenariat, on noue des relations, on crée des liens, on a en très peu de temps, puisque moi je connais pas Brieux depuis des mois, créé des liens très forts. On a eu, enfin moi j'ai eu la chance d'accompagner une délégation avec 250 apprentis qui sont venus lui rendre visite à Granville
Ah
le 19
oui,
octobre, puisque ce
avant la course.
partenariat il est dans le cadre d'un projet pédagogique avec les apprentis. Et c'était, pour tout vous dire, moi, ça fait quasiment 18 ans que je travaille à la chambre de métier, donc des bons moments, j'en ai eu. Mais ça restera parmi les plus beaux moments que j'ai pu connaître parce que c'était extraordinaire de voir ces apprentis qui découvraient ce monde-là. Brieux était, j'allais dire, le skipper parfait pour l'exercice. Il a été généreux dans les échanges. Tous les jeunes ont pu monter sur le bateau par petits groupes pour échanger avec lui, pour comprendre. Et voilà, je le revoyais encore dimanche quand on était dans l'angoisse en train d'expliquer aux jeunes la combinaison de survie, dans quel cas ça se met, etc. Et je me disais, mais c'est pas possible que ça s'arrête comme ça. C'était beaucoup, beaucoup d'émotions et on était évidemment très soulagés qu'ils soient sains et saufs, même si je vous cache pas que le soulagement, finalement, il est de courte durée, puisque
Oui.
très vite, et je crois que ça faisait partie des angoisses de Brieux de se dire, parce qu'il avait assez peu de contacts, est-ce que, mon bateau, la balise va cesser d'émettre. Et voilà, tout de suite, Anne, quand elle m'a dit qu'il était sain et sauf, je pense que, dans
Oui,
les
bien
quelques
sûr.
minutes qu'on suivit, elle m'a dit, maintenant, il faut qu'on retrouve le bateau. Donc,
Oui.
c'est,
Et
j'allais
c'est
dire, l'objectif numéro un depuis.
voilà, et c'est pas gagné aujourd'hui. Je voudrais aussi dire que vous avez tous été formidables, hein, à la Chambre de commerce, à la Chambre des métiers de l'artisanat, puisque vous avez dépêché une délégation pour son arrivée à Roissy. Et donc ça aussi, bravo. C'est très très classe, je trouve. Dire que le projet pédagogique va quand même continuer, hein, plus que jamais avec Brieux, je pense.
Bien sûr, il y a plein de choses qui sont en cours. Alors, j'allais dire qu'ils s'arrêtent pas. J'avais la chance d'aller au salon de l'artisanat d'art à Saint-Maur la semaine dernière pour l'inauguration, et le directeur de CFA, me voyant, m'a dit venez voir, venez voir. Voilà, tout content de me montrer que les apprentis en plomberie dans son CFA avaient préparé une maquette en cuivre, du catamaran. Il y a plein de projets partout qui ont déjà beaucoup démarré et ils sont tous évidemment très, comment dire, impatients de recevoir Brieux, de voir tous les films qui ont été tournés. Il y a déjà eu des très belles images qui ont pu être faites et de pouvoir échanger avec lui.
Très bien, oui. Et puis c'est un projet que nous relayerons régulièrement, comme ça avait été également programmé sur IDFM Radio. Et un dernier mot, Florence, pour dire que, eh bien, il y a cette fameuse cagnotte, hein, ouverte dès le premier jour, addictivesellinglitchi.com, qui nous invitons toutes les personnes qui peuvent donner selon leurs moyens sur cette cagnotte pour permettre à Brieux de récupérer son bateau, qui est aussi son outil de travail, puisque Brieux, c'est un chef d'entreprise.
Oui, absolument. Et si je peux encore dire quelques mots dessus, que vraiment, toujours compliqué, chacun est amené à participer à tout un tas de choses. Je sais que les temps sont durs. Les sommes, en fait, qui sont en jeu par rapport au remorquage sont des sommes assez ahurissantes. Nous-mêmes, des fois, on se disait, mais c'est pas possible, hein. Il est question de sommes qui parfois vont jusqu'à 300 000 euros juste pour le
Absolument.
retourner et l'emmener aux Açores. On était parti sur des hypothèses plus basses, mais parce que c'était avec des solutions, je dirais, autres, et peut-être avec des personnes qui avaient comment dire, qui avaient moins l'habitude ou qui n'étaient pas spécifiquement dédiées à ça. Donc je ne sais pas aujourd'hui combien ça coûtera. La priorité, c'est de réussir à le repérer. Pour tout vous dire, ne serait-ce que hier où nous avions des espoirs de pouvoir mettre une balise, pour ne serait-ce que mettre une balise sur le bateau, ça coûtait 30 000 euros. Donc les sommes en jeu sont colossales et l'enjeu, c'est de faire connaître cette cagnotte le plus largement possible pour que des personnes qui sont touchées par son histoire puissent donner 5 euros, 10 euros, peu importe. Ce sont ces sommes-là qui, à la fin,
Oui, qui
pourront
accumulait.
permettre d'aider à financer ce bateau.
Très bien. Bah, écoutez, merci. Et je vous dis, on ne lâche rien. Hein. On va continuer, nous, à relayer cette cagnotte pour faire qu'elle gonfle au maximum. Merci beaucoup, chère
Merci
Florence,
beaucoup.
d'avoir été avec nous en ligne et à très bientôt, j'espère. Au revoir.
Merci beaucoup, Jacqueline. Au revoir.
Au revoir. Alors, il y a des livres qui changent la vie, qui apaisent, qui font du bien, qui nous révèlent ou nous réveillent. Et tout de suite, je me tourne vers vous, Fabrice Milleraud, avant d'entrer dans le vif du sujet de ce salon historique et de vos ouvrages. Je vous laisse vous présenter auprès de nos auditrices et auditeurs.
Merci, la présentation est assez vite faite. Je suis né à Beaumont, il y a beaucoup d'années, quelques 73 ans. J'ai toujours vécu. Bon, j'en suis devenu maire en 1989. J'y suis resté jusqu'en 2014, ce qui m'a permis d'avoir de multiples activités liées à mon mandat municipal. Donc vous avez signalé la vice-présidence de la PVF, ce qui était assez important puisque ça me permettait, dans le cadre de cette association nationale et de la défense des problèmes qu'on pouvait avoir dans les petites villes, de défendre de façon un peu plus pointue celle de Beaumont. J'ai également été, mais c'était lié à mon mandat, président du conseil d'administration du centre hospitalier de Beaumont. Mmh. Et puis bon, quand on est maire, on décline à l'infini ou presque les responsabilités qu'on peut avoir. J'ai eu une vie professionnelle. J'ai commencé en travaillant dans le secteur de la viande, puisque j'ai un BTS en production animale. Oui. Et puis, après avoir été battu au Conseil général en 1998, j'ai été licencié, parce qu'il n'y avait pas encore de statut de l'élu aussi pointu que maintenant. Oui. Et donc, je me suis reconverti. J'ai créé, dans le cadre d'une grosse association, une structure pour personnes handicapées que j'ai gérée jusqu'à ma retraite en 2014. Voilà, je suis père de famille avec une épouse qui m'a suivi dans toutes les pérégrinations de mon mandat et je le remercie. 3 enfants, 7 petits-enfants.
Voilà, magnifique, voilà. Très bien.
Une belle petite tribu.
Alors, cette passion pour l'histoire est-elle née de votre appartenance à Beaumont-sur-Oise ou est-ce le patrimoine de Beaumont-sur-Oise qui vous a donné la passion de l'histoire ?
C'est un peu les deux. Quand j'étais jeune, j'ai fait partie de l'association archéologique de Beaumont, donc on avait un petit peu fouillé pour reconnaître certains sites, entre autres les sites gallo-romains et le site médiéval. Je me suis passionné pour l'histoire de la ville. En 78, on a créé l'association des Amis de Beaumont pour essayer de défendre le patrimoine de la ville face à une municipalité qui n'était pas une mauvaise municipalité, mais qui n'avait pas un sens du patrimoine très, très aigu.
Pas développé.
Comme beaucoup, d'ailleurs, à cette époque-là, il y avait des priorités qui n'étaient pas celles qu'on peut avoir maintenant. Ensuite, j'ai créé le syndicat d'initiative de Beaumont pour essayer de faire connaître encore plus le patrimoine. Entre-temps, d'ailleurs, puisqu'on est sur une radio locale, j'ai contribué à la création de Radio Bellovac en 81. Bien. Donc au moment où toutes les radios locales ont commencé à exploser et on avait créé la nôtre, après je l'ai perdu un peu de vue et puis durant mon mandat j'ai commencé à écrire. Le premier livre que j'ai écrit c'est pour l'an 2000 parce que je voulais sortir un ouvrage sur Beaumont et j'ai trouvé personne pour l'écrire, donc je l'ai écrit tout seul.
Vous êtes dit on n'est jamais mieux servi que par soi-même.
Donc on a sorti un ouvrage très très documenté sur toutes les rues de Beaumont et puis ensuite comme j'avais un prédécesseur dont la vie me fascinait, qui était Georges-Philippe d'Hervilliers, qui était maire en 1844, donc c'est pas d'hier. Mmh. Je faisais d'ombre à personne. J'ai écrit sa biographie, sa vie, avec pas mal de recherches, et on a sorti le livre avec la commune pour l'anniversaire d'Austerlitz, justement, 2005. Et puis ensuite, j'ai écrit pas mal d'ouvrages sur la ville de Beaumont, tout secteur confondu, sur le cimetière, le monument aux morts, sur la cité gallo-romaine, sur certains bâtiments de Beaumont, et j'en passe.
Mais voilà. Vous aviez ce goût de l'écriture avant d'écrire?
Oui,
ça vient pas comme ça, malgré tout.
Oui, enfin bon, je me prétends pas, je n'ai jamais postulé ni au prix Goncourt ni à l'Académie française, donc je reste d'une grande modestie par rapport à mes écrits, mais c'est vrai que par rapport aux discours, je me suis toujours fait un point d'honneur à les écrire et
vous-même.
Voilà. Avec ma petite main.
Très bien. Bravo. Alors, après le succès de son édition 2021, le Cercle Beaumontois du patrimoine, en partenariat avec la municipalité de Beaumont-sur-Oise, organise le 27 novembre 2022 son deuxième salon du livre sur le thème « Le livre historique Île-de-France ». Et je voudrais lire l'introduction de l'édito du catalogue de ce salon rédigé par Jean-Michel Aparicio, maire actuel de Beaumont-sur-Oise. « Qu'y a-t-il de plus beau que des mots couchés sur papier pour accéder à la connaissance du monde qui nous entoure ? C'est à travers la lecture que des clés se tournent et que des portes s'ouvrent. » Un édito à lire jusqu'à la dernière ligne, tant il traduit parfaitement, je trouve, tout l'intérêt qu'il y a à se rendre à ce salon. C'est un très bel éditorial.
Et oui, exactement. Le maire, fidèle à lui-même, a pris une bonne plume.
Oui, oui, oui. Alors, Fabrice Milleraud, détaillez-nous l'organisation et les moments forts de ce salon.
Ben, si vous voulez, à l'heure d'aujourd'hui, on a 76 invités, beaucoup d'auteurs, plus de la moitié d'auteurs, mais également des maisons d'édition. On a un libraire, un bouquiniste. On a la société des membres de la Légion d'honneur qui vient avec des auteurs. On a les amis de Napoléon III. On a l'auteur-réalisateur Mehdi Charef. Et puis on en a beaucoup comme ça qui serait très très long de vous énumérer. Alors, quant aux animations, on a deux conférences le matin. Une conférence le matin à 11h sur la guerre de 100 ans. Sur Cluny et la première croisade. Alors, on a essayé de faire rattacher les conférences un petit peu à l'histoire de Beaumont. Donc, comme dans le château, les comtes de Beaumont, très tôt, ont accueilli un prieuré de Saint-Léonard qui était clunisien, le passage était tout fait. Ensuite, l'après-midi à 15h, on a une deuxième conférence sur les ducs d'Orléans et la guerre de Cent Ans. Toujours conférence très générale, mais rattachée un peu à Beaumont, puisque à partir de 1224, le comté de Beaumont est tombé dans l'apanage des rois de France et le cadet de la maison de France était traditionnellement comte de Beaumont. Donc on a eu, entre autres, le duc d'Orléans, qui était un écrivain bien connu. Il y a eu les Conti, etc. Et pendant la guerre de Cent Ans, les comtes de Beaumont ont beaucoup œuvré.
Œuvré, oui, dans ce sens.
Voilà. Ouais. Et puis nous avons également un petit salon juste à l'entrée du grand salon sur les métiers du livre, parce qu'il nous a semblé quand même intéressant, avant de s'intéresser à ceux qui écrivaient et qui diffusaient, de savoir comment c'était fait. Donc on a 8 stands qui retracent les métiers du livre et les métiers de l'écriture, avec entre autres une association qui va nous montrer un peu tous les métiers de l'imprimerie. On a les amis de Théophile Stylen qui vont venir avec des lithographies. On a un lithographe qui va travailler devant les gens. On a une association de la ville de l'Isle-Adam qui s'occupe de la reliure et qui donne des cours de reliure, qui va nous amener des livres reliés par les élèves et puis qui va nous faire des démonstrations. On va avoir également un petit stand d'essais de plume à l'écriture, d'écriture à la plume, pardon, ah oui. Ce qui n'est pas facile.
Oui, parce qu'on n'écrit plus à la plume aujourd'hui.
Ben voilà, ouais. Moi j'ai connu, mais je crois qu'il n'y en a plus beaucoup qu'on connaît, même ici. et puis ensuite, on rentrera dans le grand salon, donc avec les catégories que je vous ai données tout à l'heure.
Très bien.
Et j'oubliais, nous aurons également une démonstration de manœuvre d'un régiment de l'armée napoléonienne en costume d'époque. C'est une petite association qui est liée à un écrivain qui viendra nous faire ces démonstrations-là. Nous aurons naturellement, grâce à la municipalité, un espace enfant pour que les parents qui viennent avec leurs enfants.
Je voulais en parler, voilà. Je trouve ça formidable.
Bon, déjà, ça ouvre les enfants un petit peu au livre.
Oui,
puis ensuite,
ça permet aux parents de venir.
Voilà. Puis les enfants sont dans le salon, donc ils peuvent toujours jeter un petit œil. Je crois que j'ai fait le tour.
Bah écoutez, ce que je trouve aussi admirable, et je le précise parce que comme on est à la radio, ça ne se voit pas, c'est que vous nous avez déroulé tout ce programme sans aucune note. Vous le connaissez par cœur.
J'ai pas trop de mérite, ça fait 9 mois que j'y travaille.
D'accord, bah écoutez, bravo. Donc, nous n'avons pas précisé où se tiendra ce salon.
Alors, il se tiendra à Beaumont-sur-Oise, naturellement, salle Lolagrange, qui est la salle des fêtes. Alors, 7 rue Léon Godin, juste en face de la mairie, il y a entre
donc
la mairie et la salle des fêtes, il y a un immense parking où les gens peuvent se garer.
Voilà, vous avez pensé à tout. L'entrée est gratuite.
Entrée gratuite.
Évidemment.
Inscription gratuite pour les écrivains, entrée gratuite. Si certains écrivains veulent encore s'inscrire, on a encore quelques places.
Il faut faire vite, puisqu'il y a que deux jours.
Oui, oui. Par contre, pour le catalogue, puisque cette année nous avons fait un catalogue de qui avec avec tous les présents, il est trop tard.
Ah oui, oui, bien sûr, parce qu'ils ne pourront pas figurer voilà. À l'intérieur.
Ce sera pour l'année prochaine.
Sauf en feuille volante, éventuellement.
Oui.
Et encore. Donc, vous nous l'avez dit, 76 participants, dont le réalisateur, auteur Mehdi Sharef.
Oui.
Un mot sur cet auteur.
Mehdi Sharef, c'est un auteur d'origine maghrébine, algérienne, qui a écrit beaucoup de livres autobiographiques, dont le premier livre qui s'appelait Le Théorème d'Archimède, il en a fait un film qu'il a réalisé, et la première de ce film s'est passée à Beaumont.
D'accord.
J'étais alors président du syndicat d'initiative, et puis c'était l'époque où le Beaumont Palace, le cinéma, était sur la tangente. Le maire de l'époque ne voulait pas le racheter, le propriétaire voulait le vendre, il y a eu des propositions de parking, de salle des fêtes, etc. Et avec le syndicat d'initiative, on a tout fait pour défendre le cinéma, et entre autres, on a fait des avant-premières, dont celle de Mehdi Sharef, qui était venu avec l'auteur principal, dont je me souviens plus le nom d'ailleurs, une lacune. Et donc, comme il habite à l'Isle-Adam, et que c'est vraiment dans le cadre du salon historique Île-de-France, puisque c'est l'histoire de sa vie qu'il habite à l'Isle-Adam et qu'il l'a amené d'Algérie à la région parisienne.
Très bien, très bien. Le cinéma, rappelons-le, le fameux cinéma rendu célèbre par Eddie Mitchell.
Ouais, il avait pas que ça. Il y a aussi Charles Aznavour qui a fait son premier gala seul en 1946 au Beaumont Palace. Et puis ensuite, ce qui a contribué à sa notoriété et qui nous a permis d'ailleurs de le faire classer à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, c'est la venue d'Eddie Mitchell et de la dernière séance.
Très bien.
Et comment dirais-je? Le tournage de l'émission n'a duré que 2 ans à Beaumont. Après, ils sont allés ailleurs. Mais chance pour nous, le cinéma de Beaumont Palace est toujours resté sur le générique.
C'est ça. Ah oui, ouais. Très bien, très bien.
Donc les gens assimilaient l'émission au Beaumont Palace,
oui.
Qui est le type même d'un cinéma de banlieue, hein, comme le décrit la chanson d'Eddie Mitchell. Mais le note, il est pas mort.
Merci Fabrice Milroe. Je vous propose qu'on fasse une courte pause et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite.
La lumière revient déjà et le film est terminé. Je réveille mon voisin, il dort comme un nouveau-né. Je relève mon strapontin, j'ai une envie de bâiller. C'était la dernière séquence. C'était la dernière séance, et le rideau sur l'écran est tombé. La photo sur le mot fin peut faire sourire ou pleurer, mais je connais le destin d'un cinéma de quartier. Il finira en garage, en building supermarché. Il n'a plus aucune chance, c'était sa dernière séance, et le rideau sur l'écran est tombé. Bye bye, l'héros que j'aimais, l'entracte est terminé. Bye bye. J'allais rue des solitaires à l'école de mon quartier. À 5 heures j'étais sorti, mon père venait me chercher. On voyait Gary Cooper qui défendait le primaire. C'était vraiment bien l'enfance, mais c'est la dernière séquence. Et le rideau sur l'écran est tombé. Bye bye, les filles qui tremblaient pour les jeunes premiers. Bye bye, rendez-vous à jamais, mes chocolats glacés. salle est vide à pleurer. Mon voisin détend ses bras, il s'en va boire un café. Un vieux pleure dans un coin, son cinéma est fermé. C'était la dernière séquence, c'était sa dernière séance. Et le rideau sur l'écran est tombé.
DFM 98 ou 98.fr, c'est l'économie en direct. Et ce matin, nous parlons littérature et patrimoine. Alors Fabrice Milroy, après nous avoir donné ce programme très détaillé du Salon du Livre, quelques mots sur Marie-Camille Svedovidov, présidente du Cercle Beaumontois du patrimoine, qui se dit aussi très fière de cette deuxième édition du Livre historique.
Oui, notre présidente a beaucoup de mérite de tenir une association qui a autant d'activités et d'activités diverses, tout se tourner autour du patrimoine. Alors c'est une Beaumontoise relativement récente, puisqu'elle est arrivée il y a une quinzaine d'années à Beaumont, mais qui s'est tout de suite intéressée à la ville. Je me souviens d'ailleurs qu'elle est venue me voir en me disant qu'est-ce que je peux faire. Ben, donc je lui ai dit écoutez, il y a un pan de l'histoire. Voilà, il y a un pan de l'histoire qui a été très peu étudié à Beaumont, c'est le couvent des Minimes. Regardez, et elle vient de sortir une conférence sur le couvent des Minimes. Contrairement à certaines personnes qui peuvent habiter depuis, voire depuis leur naissance, ou qui sont arrivées à Beaumont beaucoup plus tard et qui ne se sont jamais intéressées à la ville, elle, quand on la voit, quand on l'entend, on pense qu'elle a toujours vécu là. Oui, tellement oui, elle est attachée. Elle est attachée à cette ville et à son histoire. Et quand la Maison du Patrimoine a été créée, donc en 2014, on a créé une association pour la gérer, cette maison. Et moi, j'étais encore maire, et j'ai demandé à Marie-Camille si elle voulait en prendre la présidence. Ce qu'elle a fait, je crois, de très bon gré. Et je voudrais changer de présidente pour rien au monde.
Très bien. Alors, c'est une association qui réunit des talents multiples, des professeurs qui partagent leur passion du patrimoine à leurs élèves, une architecte qui apporte sa connaissance et son expertise, des retraités très actifs apportant leur sagesse et leurs expériences multiples, des artistes, bien sûr.
Tout à fait. C'est très éclectique, mais avec un trait d'union, c'est le patrimoine local.
Voilà. Et je crois
qui d'ailleurs dérive souvent sur le patrimoine français en général.
Bien sûr. Et je crois que c'est Marie-Camille qui dit un événement à propos du Salon du Livre historique, un événement incontournable de la région pour cette fin d'année. Et c'est pour cette raison que nous sommes ravis de pouvoir en parler encore et encore.
Ben oui, on peut vous en parler encore et encore si vous voulez.
Et nous-mêmes, nous sommes ravis de pouvoir en parler sur IDFM Radio. Fabrice Milroy, à présent, parlez-nous de votre dernier livre aux éditions Sutton, dont la sortie est prévue. Alors, j'ai noté que la sortie était prévue fin novembre. J'imagine que nous y sommes.
Oui. J'ai vraiment tanné l'éditeur pour qu'il puisse sortir pour le salon. Et sauf vraiment impondérable, il sortira pour le salon.
Sorti.
Il est chez l'imprimeur là, et on devrait l'avoir pour le salon. Donc, oui, j'ai écrit plusieurs. Même beaucoup d'ouvrages sur la ville de Beaumont, dont trois aux éditions Sutton, c'est le troisième, qui reprennent en images très très largement commentées l'histoire de la ville depuis 1870. Donc il y a eu un ouvrage qui était de 1870 à 1940, un de 1940 à 1980 à peu près, et puis le dernier qui correspond à mes mandats de 1980 jusqu'en 2014. Ce qui n'est pas toujours facile d'ailleurs d'avoir un regard extérieur quand on écrit sur quelque chose qu'on a vécu.
Bien sûr.
Mais à l'inverse, qui permet d'avoir des anecdotes que d'autres ne connaissent pas.
Oui, on est peut-être moins objectif.
On est certainement moins objectif, surtout sur le choix des thèmes.
Bien sûr.
Mais c'est vrai que ça permet également de donner peut-être quelques petits pans de l'histoire locale que les personnes ne connaîtraient si on les relatait pas.
Oui, et comme dit Jean-Michel Aparicio dans son éditorial, vous donnez des clés et des portes qui s'ouvrent probablement.
Oui. Mais c'est-à-dire que, bon, déjà, un quart de siècle de mandat, c'est long. Hein. On a marié des gens qu'on a vus naître, donc pour imager un peu le propos. Et puis, on a eu la chance ou la malchance pour Beaumont, mais que nos prédécesseurs avaient axé leur politique, enfin la chance, pourquoi je dis la malchance, c'est idiot, leur politique essentiellement sur le logement, parce qu'ils étaient issus de la guerre et qu'il y a eu des bombardements à Beaumont, il y a beaucoup de personnes à reloger, donc ils ont vraiment axé leur politique sur le logement et très peu sur le reste, et surtout pas sur la culture. Donc il y avait beaucoup de choses à faire. En sport, ils avaient déjà fait un certain nombre de choses, mais en culture et dans le reste, il y avait beaucoup de choses à faire qu'on s'était forcé de faire en 25 ans et en étageant sur toutes ces périodes-là.
Alors, quand vous écrivez un livre, puisque ce sont des livres historiques, vous faites forcément des recherches. Oui. Comment vous y prenez-vous ?
Eh bien, comme vous venez de le dire, je fais des recherches. Pour le dernier, prenons celui-là. Déjà, j'avais beaucoup de choses dans la tête et dans mes archives personnelles, j'avais encore beaucoup de choses. J'avais aussi beaucoup d'amis qui avaient aussi des documents. J'ai fait beaucoup de recherches aux archives municipales. Et je remercie la municipalité de me avoir très largement ouvert, où j'ai pu puiser beaucoup d'informations. Ce qui fait d'ailleurs très drôle de rechercher dans les archives municipales des documents que vous avez vous-même signés.
Ah oui,
et puis, il y avait un incontournable également, c'est le journal local, le régional, que vous devez connaître, qui a été créé à Beaumont avant que je naisse, en 1888, qui est une mine de documents. Oui, c'est une mine. C'était les trois principales sources de renseignements que j'ai pu prendre. Après, il y en avait quelques autres, mais elles étaient marginales.
Oui, très bien. Oui, et ça, au fond, ça doit même être des moments de bonheur de faire ces recherches.
Ça a été intense, oui. Mais c'est oui. Faire des recherches, c'est toujours du bonheur, parce que moi, je suis pas un grand voyageur et je me promène dans l'histoire.
Vous voyagez.
Je voyage dans l'histoire et dans l'histoire locale, c'est encore plus passionnant. C'est à la fois un voyage et puis c'est aussi des recherches du style comme policière.
Oui,
c'est-à-dire que vous avez une énigme de temps en temps, il faut la résoudre, donc il faut chercher. Là, j'ai un livre que j'ai un peu dans la tête et ça va me demander également pas mal de recherches et puis d'imagination pour aller trouver les documents.
Alors, je rappelle le titre de votre livre, Beaumont-sur-Oise d'un siècle à l'autre, Mémoire d'un maire, que vous pourrez dédicacer forcément au Salon du Livre.
Alors, si je peux me permettre une précision, naturellement, il sera présent au Salon du Livre et je le dédicacerai, mais il est prévu une conférence le 20 janvier à Beaumont. Avec la participation de la municipalité à la salle Léo Lagrange où on recevra toutes les personnes dont j'ai fait le portrait et qui seront disponibles.
Très bien.
Parce que dans ce livre, une petite originalité, c'est que j'ai fait le portrait de 80 personnes qui ont été qui ont marqué le mandat, alors à des degrés très divers. Ça va de l'employé communal qui s'occupait du cimetière parce qu'il le faisait très très bien.
C'est un lieu important
et il était incontournable jusqu'au curé en passant par le commissaire de police, les journalistes, les enseignants, les sportifs, les culturels, les chefs d'entreprise, les commerçants, etc. Donc il y en a 80 comme ça. Et on va en réunir un maximum. Et là, s'il y en a certains qui sont décédés, d'autres qui ne seront pas disponibles parce qu'ils sont partis voguer vers d'autres horizons. Mais tous ceux qui seront disponibles seront là.
Donc le 20 janvier, à quelle heure
19h. Salle Léo Lagrange. Je ne vous redonne pas l'adresse.
Oui, écoutez, on va noter cette date. Et puis, pour nos auditeurs, c'est une date qui se retrouvera forcément dans le podcast de l'émission.
Merci.
Merci beaucoup, Fabrice Milhaud. Vous donnez envie de lire votre livre, vraiment. Merci pour toutes ces précisions, puis cette appétence que vous avez suscitée à découvrir l'histoire de Beaumont-sur-Oise à travers vos ouvrages. Et si nos auditrices et auditeurs veulent en savoir plus encore, que doivent-ils faire pour ce salon du livre? On va sur le site de la mairie?
Il est sur le site de la mairie, il est sur le site du Cercle Beaumontois du patrimoine, et puis il est salé au Lagrange, donc Beaumont, c'est
oui,
pas une grosse ville.
On peut pas le louper.
Vous traversez Beaumont, vous passez devant, donc il n'y a pas de souci.
Très bien.
Et on vous attend très très nombreux.
Merci infiniment. Avant de prolonger la discussion sur la littérature en général et le salon du livre de Beaumont-sur-Oise en particulier, on marque une pause et on se retrouve juste après.
This is the end. Hold your breath and count to ten. Feel the earth move and then hear my heart burst again. For this is the end. I've drowned and dreamt this moment. So overdue.
Together at sky.
rejoignez, c'est l'économie en direct sur IDFM 98 ou 98.fr et je suis toujours en compagnie de Fabrice Milleraud, vice-président du Cercle Beaumontois du patrimoine, maire honoraire de Beaumont-sur-Oise, auteur de 11 livres sur l'histoire de Beaumont-sur-Oise, Marlène Erlem, professeure d'histoire-géographie, adjointe à la culture, au patrimoine et aux festivités depuis juillet 2020 de Beaumont-sur-Oise, RM, ancienne et auteur, deux passions indissociables. À présent, focus sur l'adjointe à la culture de Beaumont-sur-Oise, Marlène Erlem. Donc, merci Marlène d'être avec nous ce matin. Toujours dans son édito, le maire de Beaumont-sur-Oise, Jean-Michel Aparicio, parle donc de ces portes qui, à travers la lecture, s'ouvrent sur le présent, l'avenir, le passé, avec comme lien entre les époques des écrits qui restent et nous parviennent à travers les générations. Et en lisant ces lignes, on se dit que votre mandat d'adjointe à la culture est en parfaite cohérence avec votre métier. Professeur d'histoire-géographie, est-ce que je me trompe ?
Pas du tout, ce n'est absolument pas un accident. C'est-à-dire oui. que dans le cadre de mes activités associatives, avant que je sois élue, je participe toujours à la réalisation des expositions historiques du Cercle Beaumontois du patrimoine. Et donc, par conséquent, je dirais que je me trouvais de l'autre côté. C'est-à-dire oui, c'est que ça. J'étais dans le domaine associatif. Mmh. Je suis encore actuellement chargée des expositions qu'elle soit historique ou artistique. Et quelque part, c'est vrai que c'était un petit peu frustrant de travailler sur le patrimoine, de voir toutes les problématiques, de réfléchir à des solutions, à des propositions, à des aménagements, à des innovations éventuelles, et de ne pas avoir les moyens concrets de pouvoir le faire. Et donc, c'est aussi une des raisons qui a fait que, quelque part, je dirais que le monde politique a commencé à m'intéresser, alors que ce n'était pas quelque chose que j'aurais pu envisager il y a 20 ans, et que là, je me suis dit que c'était aussi la possibilité de se donner les moyens de pouvoir mettre en œuvre les rêves, d'une certaine façon aussi, de l'association, et que donc on allait pouvoir tenter notre chance, on pourrait dire ça comme ça. Nous avons eu la chance d'être élus, et c'est vrai que l'axe patrimoine est quelque chose qui tient très très à cœur à cette municipalité, et qui, je dirais, est le fil conducteur de l'action que nous sommes en train de mener depuis 2020, même si le Covid nous a beaucoup freiné, parce que c'est vrai que aussi bien sur le plan culturel, historique, patrimonial, il y a beaucoup de dossiers qui n'ont pas pu qui ont été mis en œuvre assez tardivement, mais là maintenant que nous sommes un peu plus libérés, les 1000 ans nous ont permis justement de pouvoir démarrer en fanfare.
Oui, alors il faut dire en effet qu'à Beaumont-sur-Oise, vous êtes gâtés, puisque la richesse du patrimoine, de son patrimoine, en fait une ville culturelle incontournable, avec son château, son église, ses rues historiques.
Oui, tout à fait. C'est une ville qui connaît 4 monuments historiques classés, ce qui n'est pas très courant pour une municipalité de nous sommes quasiment à 10 000 habitants, que ce patrimoine n'est pas très connu finalement, aussi bien par la population locale que par les villes environnantes, et qu'il y avait une véritable nécessité de pouvoir le faire découvrir, de pouvoir le mettre en valeur et d'amener de cette manière-là à un certain rayonnement de la ville. À travers les 1000 ans, nous avons pu le faire, et je pense qu'on peut dire que d'une certaine façon cet objectif a été réussi, puisque nous avons doublé la fréquentation lors des journées du patrimoine. Bravo. C'est quand même assez considérable. Ce qui veut dire que quelque part, l'intérêt pour le patrimoine de Beaumont a été suscité et que la population s'y est intéressée. Et au fur et à mesure des différents événements, des animations, du chantier patrimoine qui a été mis en place, on s'est rendu compte qu'il y avait une véritable demande de la part de la population de découvrir ce patrimoine, de participer à son entretien, à sa rénovation.
Les gens se sentent acteurs.
Tout à fait. Oui. Et ils se sentent acteurs de leur environnement et ils sont ravis de participer à la préservation de cet environnement.
C'est ça. Quelque part, ils s'approprient leur propre patrimoine.
Oui, tout à fait. Ça devient un petit peu leur maison, d'une certaine façon.
Alors, il faut dire que vous avez eu un week-end extraordinaire les 14 et 15 mai avec la fête médiévale qui a eu un grand, grand succès, j'ai pu savoir.
Alors, nous avons même été les premiers surpris parce que ces 1000 ans de Beaumont nous ont permis de mettre en place des week-ends d'événements qui n'avaient pas forcément eu lieu ou qui avaient eu lieu il y a très longtemps. Et donc, c'était la deuxième fête médiévale puisqu'il y en avait eu une il y a plus de 10 ans, je crois, si je me rappelle bien. Plus que ça. D'accord. Et donc, par conséquent, c'était un pari, d'une certaine façon, de cette fête. En plus, c'était une des premières grosses manifestations après cette période Covid. Donc, nous n'avions aucune idée
de
l'incidence que ça pouvait avoir, de la fréquentation que nous aurions. Donc, nous avons eu de la chance sur toutes nos manifestations. Il a fait extrêmement
très beau.
Donc, ça aide aussi. Mais c'est vrai qu'on estime à peu près à environ 10 000 personnes le nombre de personnes qui sont venues fréquenter cette manifestation, pour lesquelles les retours n'ont été que positifs, ce qui était très étonnant aussi, parce qu'il y a toujours des choses positives et toujours des choses négatives, ce qui est tout à fait normal.
Oui, et ça permet d'avancer.
Tout à fait. C'est assez constructif d'entendre aussi quels sont les avis qui nous sont donnés, et puis parfois les conseils aussi. On a véritablement été surpris par l'accueil de la population, le fait qu'on ait pu toucher aussi toute la population. C'est-à-dire que souvent, dans le domaine culturel, lorsqu'on met en place des spectacles, des événements, on va cibler, on va avoir une cible particulière, donc jeunesse, une tranche d'âge, des personnes âgées, etc. Or là, on était dans la construction d'événements où du bébé jusqu'à la personne âgée, tout le monde pouvait y participer, tout le monde y trouvait son intérêt de différentes manières, puisque entre les ateliers jeunesse, entre les démonstrations, les spectacles, on a fait aussi un week-end sur la libération de Beaumont-sur-Oise, et là les personnes âgées qui avaient vécu ce moment-là ont pu venir nous raconter
témoigner,
aussi et raconter aux gens qui étaient présents. C'était assez extraordinaire de voir cet échange entre les gens, c'est-à-dire ces personnes âgées qui racontaient aux plus petits qu'eux, il s'était passé telle chose, qu'ils avaient tel souvenir, telle anecdote. Ça permettait de rendre l'histoire
concrète. C'était une mémoire vivante.
Tout à fait. C'était ça. Et donc, la fête médiévale, ça a été le début de ces différentes manifestations. Et on s'est rendu compte que finalement, c'était ce créneau-là qu'attendait la population et qui nous permettait, dans le domaine culturel, historique et patrimonial, de toucher le plus de personnes possible.
Alors cet événement du Salon du Livre Historique qui aura lieu dans 2 jours, le 27 novembre, va sans doute offrir des regards croisés avec les différentes associations et personnes qui participeront à ce salon. J'ai pu voir qu'il y a de nombreuses associations, j'ai relevé le musée Arkéa de Louvre, l'école des Coins. Est-ce vous-même qui avez mis en relation ces musées et ces écoles pour le Salon du Livre ?
Alors, pas du tout, puisque le Salon du Livre, c'est une manifestation qui est organisée par le Cercle Beaumontois du Patrimoine.
D'accord, oui.
Et donc, cette association...
Vous êtes plus là pour superviser, finalement.
Oui. Et non. Alors, je vous explique pourquoi. Parce que ma double casquette, quelque part, en tant que chargée des expositions dans l'association et adjointe, fait que je travaille sur les deux tableaux. Je sais que tout ce qui est muséal, j'ai eu des contacts avec eux aussi dans le cadre d'expositions, dans le cadre de gestion du fonds que l'association pouvait accueillir au sein de la Maison du Patrimoine. Donc, ce sont des interlocuteurs qui me sont aussi familiers, même si c'est l'association qui... la plupart du temps, depuis des années, garde le côté relationnel, organisationnel fonctionnement avec les différentes institutions, donc notamment le musée des Coins, Arkéa, surtout le musée de Guérin-Vexin. On travaille beaucoup avec le musée de Guérin-Vexin.
D'accord. Oui.
Les archives départementales, ce genre de choses-là. Et donc, je les connaissais déjà dans ce cadre-là. Alors, c'est Jérémy David qui est en règle générale, qui est ancien élève de l'école du Louvre, qui est le secrétaire.
Qui était venu nous présenter la fête médiévale.
Voilà,
il en avait très bien
parlé.
Tout
à fait, il est secrétaire de l'association, il est maintenant responsable des collections de l'association. Et donc, par conséquent, c'est lui qui est le plus souvent en contact avec toutes les institutions. Mais c'est un travail collectif, je dirais, partenarial. Et suivant les sujets, suivant les données, suivant ce que l'on organise au sein de l'association, eh bien, nous sommes plusieurs à avoir des contacts avec ces différentes structures. Donc ce partenariat-là, il est collectif et il n'est pas forcément lié à la fonction d'adjointe que j'ai maintenant, même si maintenant j'ai des
Bien
contacts
sûr, c'est,
directs
c'est automatiquement
par ma
lié.
Fonction. Ouais. Mais il a été, je dirais, mis en place en premier par l'association.
Très bien. Je vous propose de qu'on fasse une courte pause à nouveau. Et puis, je voudrais qu'on parle de votre métier d'enseignante histoire-géographie avec justement ce patrimoine qui est à Beaumont-sur-Oise juste après. À tout de suite. IDFM 98 ou 98.fr, merci d'être toujours avec nous pour parler du Salon du Livre historique qui aura lieu à Beaumont-sur-Oise le 27 novembre de 10h à 18h. Marlène Herlem, donc vous êtes, je l'ai dit, professeure d'histoire et géographie. De vastes fouilles archéologiques ont confirmé que Beaumont-sur-Oise fut fondée à l'époque de Jules César. Vous avez un terrain fabuleux pour vos élèves.
Disons que je n'enseigne pas à Beaumont-sur-Oise.
Ah, pardon.
Alors, j'ai fait mon année...
Je l'ignorais, excusez-moi.
De stagiaire dans cette commune. Donc, oui. Effectivement, j'ai utilisé ce patrimoine pour pouvoir illustrer un petit peu ce que j'étudiais avec les élèves. Mais je me suis toujours beaucoup intéressée à l'histoire locale. Alors, avant d'être prof d'histoire géo, parce que c'est une reconversion, d'une certaine façon.
D'accord.
Ça fait à peu près...
On va tout savoir.
Ça fait 3 ans que je suis prof d'histoire géo.
Bravo.
Avant, j'étais enseignante spécialisée. Je travaillais avec les élèves en échec scolaire. Mais j'enseignais l'histoire. C'est mon cursus universitaire. Cette reconversion, elle est liée au fait qu'effectivement, j'ai eu envie à un moment d'enseigner la matière qui me correspondait, parce que dans l'enseignement spécialisé, on enseigne plusieurs matières.
Oui.
Donc j'avais vraiment envie de me spécialiser. Et j'ai toujours utilisé l'histoire locale parce que je trouve que c'est la meilleure manière de pouvoir concrétiser certains concepts ou certaines notions qui sont très éloignées des connaissances des élèves, de ce qu'ils comprennent, de leur environnement, et que quelque part, partir de ce qui leur est familier, ce qui est autour d'eux, leur permet d'appréhender beaucoup plus de choses. Et donc, Beaumont-sur-Oise, effectivement, je l'ai très très souvent utilisé avec mes élèves, parce que sur le plan médiéval essentiellement, puisque on a l'église, on a le château, qui permet véritablement de savoir ce qu'était une seigneurie médiévale à cette époque-ci, puisque c'était un comté extrêmement puissant. C'est devenu ensuite domaine royal, donc ça dépendait aussi de l'abbaye de Saint-Denis. Donc ça nous permet d'étudier le fonctionnement médiéval finalement en utilisant tous les aspects de ce fonctionnement et toutes les interactions qui pouvaient y avoir. En plus, les archives départementales ont créé une exposition temporaire sur un chirographe qui se trouve donc aux archives, que les élèves peuvent utiliser, avec lequel on peut travailler en classe. Donc ça permettait véritablement d'utiliser des documents et de concrétiser tout ce que les élèves pouvaient observer autour d'eux. Cette année, je suis sur l'Usarche. Eh bien, nous avons un projet dans le cadre de mon collège où nous allons, pareil, illustrer l'histoire médiévale par le biais de la seigneurie de l'Usarche. Et c'est vrai que on constate que les élèves vivent dans un environnement qui, en règle générale, ils voient un mur détruit, une ruine, et qu'ils ne se sont jamais posé la question de ce que ça pouvait être.
Qu'il pouvait y avoir derrière.
Et puis même de qu'est-ce que c'est. Pour eux, c'est un mur. C'est un mur qui est en train de s'écrouler. Ce n'est pas un château. Et puis, mais à partir du moment où on leur met le doigt dans l'engrenage, en leur disant que quelque part, il y avait un château à cet endroit-là, alors là, leur curiosité est colossale. Et on va très très loin dans le travail, dans les recherches, et dans l'intérêt qu'ils peuvent poser. Et finalement, c'est un vrai bonheur de pouvoir enseigner cette matière lorsque on arrive à susciter leur intérêt. Et pour cela, l'histoire locale est vraiment, pour moi, le meilleur moyen.
Oui, le meilleur moyen. Oui, là aussi, vous en parlez très, très bien. Et j'imagine que vos élèves doivent assister à vos cours avec bonheur également, puisque vous-même, vous avez cette passion. Hein, vous devez la transmettre.
Ben, je pense que dans mon métier, avoir la passion de l'histoire, c'est essentiel. C'est une matière où on raconte d'une certaine façon. Donc il faut avoir un vivier d'anecdotes, il faut essayer de trouver des choses un petit peu étonnantes, il faut essayer de recontextualiser par rapport à des événements historiques beaucoup plus grands. Et donc c'est parfois très complexe pour eux. Et donc si jamais on ne la rend pas vivante, si jamais on ne la construit pas avec eux en utilisant cette histoire locale, généralement on en perd une grande partie.
Une grande partie.
Et je sais qu'il y a une petite chose que j'aime bien faire et que je vais, je pense, développer. Et c'est les Milans qui m'ont donné cette envie-là. C'est de me costumer.
Oui.
Parce que je pense, par exemple, j'ai l'habitude de mettre en scène la cérémonie de l'adoubement avec les élèves. Mmh. Donc, ça les amuse beaucoup, en règle générale. Mais c'est quelque chose qu'ils n'oublient pas après. Ils maîtrisent le vocabulaire, ils maîtrisent les acteurs, ils maîtrisent le fonctionnement, parce que c'est quelque chose qu'on a mis en scène.
Oui, puis l'adoubement, c'est quand même quelque chose de fort. Hein.
Tout à fait. Dans l'histoire médiévale, c'est même essentiel. Et le fait d'avoir des costumes, de moi-même être en costume, ça les surprend, ça les interpelle. Et ça marque encore plus, quelque part, l'événement qu'ils viennent de vivre ou la notion que l'on vient d'étudier. Moi, ça m'amuse. Eux, ça leur rend le cours plus vivant. Et je pense que avec cette génération qui est beaucoup basée sur le jeu,
jeu de rôle.
La difficulté de concentration, le fait de les interpeller, de les questionner, fait qu'on réussit à mieux maîtriser aussi cette concentration qu'ils ont parfois tendance à perdre.
Eh bien, écoutez, moi, je trouve que c'est une superbe idée. Et puis, faudra nous envoyer des photos de vos costumes.
Si vous voulez, avec plaisir.
Merci beaucoup, Marlène Erlem, d'avoir répondu à mes questions. Ah oui, j'ai une question quand même encore. Vos élèves de l'USARJ, vous allez les inviter à venir au Salon du Livre Historique. Vous allez leur en parler?
Alors, moi, j'en ai parlé à mes collègues.
Oui.
Les flyers seront dans la salle des profs. Oui, je vais leur en parler. Après, je ne m'abuse, effectivement. Puis c'est le type de livres qui sont proposés pour la plupart s'adressent pas à un public. Moi, ce sont des adolescents, donc j'en parle, je les préviens. De toute façon, tout ce qui est historique sur notre commune, en règle générale, je leur dis qu'il va y avoir un événement, comment ça va se passer. Et j'ai eu le plaisir de les retrouver lors des différentes manifestations. Et donc, c'était intéressant parce que ça permettait de visualiser pour eux ce qu'on avait pu voir en classe. Et puis, ça fait plaisir de voir que s'intéresse à ce qu'on peut leur raconter.
Une question que je pose à l'un et à l'autre, à vous aussi Fabrice, il y aura peut-être des photos ou des illustrations qui seront à vendre, qu'on pourra se fournir?
Je pense qu'il y aura tout dépend de ce que vous entendez, mais des photos de la manifestation, il y en aura beaucoup.
Oui.
Elles seront pas à vendre, elles seront à donner.
Oui.
Ensuite, chaque auteur a sa propre publicité.
C'est
donc ça, je sais pas comment chacun va réagir par rapport à ça.
D'accord.
Mais bon, très souvent, ils ont du matériel de publicité
des
qu'ils
documents,
peuvent donner.
Oui. Oui. Très bien.
Puis on a surtout cette année le catalogue. J'insiste dessus
un
parce
beau
que
catalogue, oui,
ça permet aux visiteurs et aux participants de savoir qui est qui. Et puis éventuellement nouer des contacts.
Bien sûr, bien sûr. Merci Marlène Erlem, donc je l'ai déjà dit, d'avoir répondu à mes questions et puis nous avoir donné envie d'aller à ce salon du livre qui aura lieu dimanche 27 à Beaumont-sur-Oise de 10h à 18h. Dans quelques minutes, la suite de notre émission, on écoute un peu de musique et on se retrouve juste après.
I put a spell on you. Because you're mine. You better stop the things you do. I tell you I ain't lying. You're running around, you know better, daddy. I can't stand it 'cause you put me down. Oh no, I put a spell on you. Because you're mine. We'll be right back.
You know I can't stand it. You're running around. You know better, Daddy. I can't stand it 'cause you put me down. Ooh, I put a spell on you.
D'être resté avec nous, c'est l'économie en direct sur IDFM Radio 98 ou 98.fr. Et ce matin, nous parlons de patrimoine, de littérature, avec toujours mes invités, Fabrice Milleraud, vice-président du Cercle Beaumontois du patrimoine, maire honoraire de Beaumont-sur-Oise, auteur de 11 livres sur l'histoire de Beaumont-sur-Oise. Marlène Erlem, professeure d'histoire-géographie, adjointe à la culture, au patrimoine et aux festivités depuis juillet 2020 de Beaumont-sur-Oise, et RM, enseignante et auteure de passions indissociables. Et donc, il est temps à présent de retrouver RM, ma troisième invitée. Donc, merci d'avoir patienté.
Je vous en prie.
RM, j'ai trouvé qu'une étude scientifique très sérieuse affirme que lire 20 minutes par jour prolongerait l'espérance de vie de 20%. Et je me suis demandé ce qu'il pouvait en être lorsqu'on était écrivain.
Si on écrit 20 minutes par jour, est-ce qu'on vit plus longtemps?
Voilà, c'est la question que je me suis posée.
Bah écoutez, je ne sais pas, je vous dirai peut-être ça dans une centaine d'années.
Dans 100 ans, oui. Donc, RM, comme je l'ai dit, RM s'écrit E-R-Y-M-E. Comme je l'ai dit en préambule, dans la vie professionnelle, vous êtes enseignante et à vos heures perdues, auteur sous ce pseudo de RM.
Tout à fait.
Quelques mots sur ce pseudo, sans dévoiler quoi que ce soit. Est-ce une anagramme?
Alors non, je peux vous dire tout à fait d'où il vient, ce pseudonyme, je me le suis attribué toute jeune déjà, puisqu'il est fabriqué de la même manière que mon auteur préféré de ma jeunesse, qui était Hergé.
D'accord.
Voilà, et qu'il avait fabriqué en prenant ses initiales à l'envers. Et donc, j'ai fait la même chose et ça a donné RM.
Très bien. Alors, c'est un pseudo parce que c'est important pour vous de ne pas divulguer votre nom et de mélanger vos activités, ou la crainte d'être trop connu un jour.
Alors, d'être trop connu un jour, je vais quand même pas dire ça. Non, je pense que c'est... Voilà, c'est parce que c'est un pseudonyme que, comme je le disais, je me suis donné depuis longtemps, sous forme de jeu au départ, et puis finalement, j'y tiens. Alors après, effectivement, ça me permet d'avoir ces deux activités un peu différentes et dissociées. Mais j'y tiens. Je trouve que c'est bien. En tant qu'auteur, j'aime bien avoir ce pseudonyme-là.
Très bien. Alors, racontez-nous comment est née cette passion de l'écriture, son point de départ.
Alors, le point de départ, je ne saurais pas vraiment vous le dire parce que j'écris depuis que je suis toute jeune. Quand j'étais petite, donc à l'âge de 6-7 ans, enfin quand on sait quand même lire et écrire, avant c'est compliqué.
Oui.
j'ai écrit des histoires de lutins qui doivent retrouver des potions, voilà ce genre de choses. J'ai écrit aussi des histoires policières dont mes doudous étaient les héros. Et puis j'écrivais des petites chansons. J'étais très bonne en rédaction à l'école, d'ailleurs.
Ouais. Donc c'est pas un hasard.
Non, voilà. Et puis en étant adolescente, j'ai plutôt écrit des poèmes et paroles de chansons, parce que j'aime aussi chanter par ailleurs. Et voilà. Et puis ensuite, en fait, je pense que c'est un gros manque de confiance à la base qui a fait que tout ça est resté bien, bien au chaud dans des tiroirs très profonds. Et puis, j'ai toujours adoré écrire, et dès que je vois des situations un peu particulières, j'ai toujours quelques mots, un début de paragraphe, un début d'histoire, un titre qui me vient. Donc, je pense que c'est très ancré en moi. Et, mais bon, voilà, la vie fait que on avance et parfois on laisse de côté certaines choses, puisque ça demande du temps, de la concentration. Donc, oui. Donc j'ai un peu laissé tout ça, mais c'est toujours resté en moi. Et puis il y a eu en 2015 cet événement dramatique des attentats de Charlie Hebdo qui fait que j'ai sorti l'émotion qui me venait à ce moment-là en une nouvelle que j'ai écrite spontanément. Et qui, d'une certaine manière, puisque donc c'est un objet qui écrit, qui raconte, et donc cet objet n'est révélé qu'à la fin de la nouvelle. Et puis finalement, j'ai décidé de continuer à écrire de cette manière-là, quelques nouvelles. Et puis ensuite, en 2016, je suis devenue maman. Et je me suis dit que c'était un bon exemple d'aller jusqu'au bout et d'essayer de concrétiser un rêve, d'être édité, d'écrire et d'en faire quelque chose et pas seulement de le donner à manger à mes tiroirs. Et voilà, et donc je me suis dit que c'était un bon exemple pour ma fille d'assumer cette passion, d'assumer ça et de faire lire et d'avoir cette confiance. Voilà, donc ça a été un peu un déclic de me dire ça suffit, on arrête de se cacher. Et voilà, pour que ce soit aussi un exemple pour elle et que si elle a quelque chose comme ça qui lui plaît, qu'elle n'en ait pas honte, qu'elle assume et qu'elle arrive à le montrer, à être fière de sa maman. À être fière d'elle aussi déjà, elle aussi a envie de montrer des choses, qu'elle n'ait pas peur de le faire. Voilà.
Alors moi, je l'ai même ressenti, je me suis dit que j'ai compris que vous avez décidé de mener à bien votre projet pour avoir donné naissance à votre fille en 2016 et que d'une certaine façon, vous avez donné naissance à votre premier ouvrage.
Tout à fait, on peut dire ça.
Ouais. Je voulais dire, vous nous avez dit que vous faisiez des poèmes et vous avez été primée en 2019 pour une poésie.
Oui, c'est ça. C'était dans
quel cadre ?
Alors c'était un concours de poésie qui avait lieu sur la ville d'Herblay, pas très loin d'ici. Et donc c'était dans le cadre d'un thème qui sur la beauté et l'égalité et notamment sur l'égalité homme-femme dans la société. Donc une auteure a fait pas mal de projets avec les écoles et les collèges d'Herblay. Et puis il y avait ce concours de poèmes sur le thème beauté égalité. Donc j'ai eu un prix avec un poème que j'ai.
Oui, ça a dû vous encourager quand même ce prix.
Oui, tout à fait.
Ça fait plaisir.
Ouais, tout à fait.
Alors votre recueil s'intitule Menu découverte, une dégustation en 9 nouvelles et que j'ai personnellement savouré et je le dis très franchement.
Merci.
Sous forme d'énigmes ou devinettes, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est cette personnification des objets. Un style et un regard aiguisé qui rendent vivants les objets. Est-ce que vous êtes allé puiser dans votre autobiographie pour ces nouvelles ?
Alors, pour une en particulier, oui.
Oui.
Alors, bon, je ne dirai pas laquelle
on ne va pas dire laquelle, absolument.
qui raconte son histoire à ce moment-là. Mais elle fait le lien avec mon roman actuel, puisque j'ai écrit depuis un roman qui est en route vers les éditeurs. Donc non, ça ne puise. Enfin, le reste des nouvelles ne puise pas forcément dans mon autobiographie, mais on met toujours un peu de soi quand on écrit on écrit quelque chose, que ça soit des émotions fortes qu'on a ressenties par rapport à un événement extérieur comme les attentats de Charlie Hebdo. Ou que ce soit par d'autres émotions qu'on peut ressentir à des moments plus personnels de la vie de famille ou de sa vie à soi. Voilà, on y met toujours un peu quelque chose, oui.
Alors, moi, on pense à Lamartine, nous en avons parlé avant l'émission, on pense à Lamartine qui a dit « Objet inanimé, avez-vous donc une âme ?» Fabrice Milhaud m'a rappelé cette phrase. J'ai lu toutes vos nouvelles vraiment avec intérêt et ce côté devinette nous maintient curieux, puis on a hâte de connaître la suite, la solution. La première, elle interpelle. J'ai dû la relire une autre fois pour bien comprendre ce dont il s'agissait. Mais on se prend au jeu de deviner ensuite de quels objets il s'agit. Elles sont très réalistes, parfois sombres. Nous rappelons, comme vous l'avez dit, des événements tragiques. Et je me suis même demandé, est-ce que ces nouvelles pouvaient agir comme une résilience ?
Alors,
je ne saurais pas dire.
Ouais. C'est vrai que j'ai eu ce besoin à un moment d'exprimer des émotions fortes par l'écriture. Voilà, alors après, que ce soit des émotions liées à des faits réels, donc ça, c'est les entrées de mon menu, donc sont basées sur des faits réels qui m'ont touché plus ou moins. Et puis après, j'ai eu envie de raconter des choses un peu plus légères. Voilà, donc après, je saurais pas vous dire.
Oui, peut-être que vous y réfléchirez.
Oui,
parce que après, en effet, il y en a de plus douces.
Oui, tout à fait.
Et moi, j'ai particulièrement apprécié celle. Bon, je donne juste le nom de l'objet. Ça vous dérange pas que je donne ces.
Bah, les personnes qui liront sauront sûrement de quelle nouvelle vous parlez.
Mais je parlais de la brosse. Ouais. Voilà, j'ai adoré cette nouvelle aussi. Donc, et là où votre style me touche, c'est que moi, je suis comme vous, je donne une âme aux objets et je suis capable de, à propos d'un objet, de parler tout bas pour pas qu'il entende que je vais dire du mal de cet objet. Et en même temps, je crois que c'est une façon peut-être de mieux s'ancrer dans le réel, de donner vie comme ça à ces objets. Vous l'avez toujours fait, vous d'ailleurs?
Oui, alors en fait, c'est vrai que là, j'ai écrit des nouvelles qui sont, alors certaines effectivement basées sur des faits historiques et puis d'autres très légères, depuis toujours et notamment, alors ça va faire le lien avec les deux personnes qui étaient là avant moi, puisqu'on parlait histoire et patrimoine. C'est vrai que depuis toujours, quand je visite des lieux où il y a des, comment pourrait-on dire, des vieilles pierres, on va dire.
Oui.
Je suis toujours interpellée par. Notamment, j'ai l'image d'une canette de soda posée sur une pierre du Mont Palatin à Rome. Et je me suis dit, mais que pense cette pierre, après tout ce qu'elle a vécu, d'avoir une canette de soda à moitié terminée sur elle? Et c'est vrai que j'aimerais, si un jour j'ai le temps de le faire, faire des recherches et écrire l'histoire d'une vieille pierre, voir tout ce qu'elle a vécu. Bon, tout ça pour en arriver là, on va dire, avec une canette de soda posée sur elle. Voilà, je me suis toujours posé ce genre de questions. Que pensent ces pierres, qu'elles soient récentes, mais plutôt vieilles, quand elles nous voient maintenant, après tout ce qu'elles ont vu passer? Je me suis toujours posé ce genre de questions.
Vous donnez vraiment une âme aux choses. Ouais. Vous dites à propos de votre manière d'écrire que vous êtes plus à l'aise dans les écrits à contrainte.
Tout à fait.
Expliquez-moi.
Alors, donc pour les nouvelles, en fait, je me suis donné ce fil conducteur, puisque la première nouvelle a été écrite ainsi, de faire parler un objet, mais sous forme de... En fait, en ne disant pas quel est cet objet dès le départ. Voilà. J'aimais bien écrire comme ça, avec cette contrainte-là. Je suis également parolière dans un groupe acoustique où je chante également.
Oui.
Et alors là, ça s'est fait de cette manière-là. J'ai écrit. En fait, quand je suis arrivée, le groupe était déjà formé, mais instrumental. Donc, j'ai écrit en prenant en compte le titre de la chanson, la musique, et le ressenti des personnes qui avaient fait la musique, le ressenti des musiciens. Donc, à partir de là, ils m'ont donné les informations et je me suis insérée dans les chansons. Et j'ai beaucoup aimé cet exercice d'utiliser un titre pas toujours évident et d'en faire quelque chose.
Oui, en plus, qui ne vous appartenait pas.
Tout à fait. Ouais, voilà. Ouais. Par exemple, pour le poème dont on parlait tout à l'heure, pour lequel j'ai été primée, le thème, c'était beauté, égalité. Et en fait, j'ai écrit, alors je ne sais pas quelle forme on peut donner à ce type de poème, mais donc c'est une forme qui existe, mais avec le mot beauté, beauté avec un S, qui fait toutes les premières lettres des vers.
Ah oui.
Et le mot égalité qui fait toutes les dernières lettres.
D'accord. Ah voilà. Oui. Ah oui, c'est un vrai exercice.
Oui, tout à fait. Et en fait, j'aime beaucoup écrire avec ce genre d'exercice. Et là, pour le roman qui, j'espère, sera édité un jour, voilà, je me suis donné comme contrainte de donner le point de vue de différents personnages. Et il y a deux personnages principaux, donc chacun parle pour chaque chapitre, en fait, ça change. Et il y a un troisième personnage, et ce troisième personnage, on ne sait pas qui c'est, et je me suis arrangée pour qu'aucune forme grammaticale ou orthographique ne permette de savoir si c'était un homme ou une femme.
Sans genre, oui, c'est ça, voilà. Un genré.
Voilà, ah ouais, tout à fait. Bien. Donc, c'est encore des exercices d'écriture.
Oui, ça oblige à une vraie discipline.
Tout à fait. Ouais, ouais. Et j'aime bien écrire comme ça.
D'accord. Alors, aujourd'hui, ce roman est en cours d'envoi chez les éditeurs, vous nous l'avez
tout
dit.
Tout à fait.
Là, je m'adresse à vous et puis aussi à Fabrice Milleraud. Est-ce que c'est le parcours du combattant alors, vous, RM, c'est le parcours du combattant d'envoyer un roman chez un éditeur?
Alors, en fait, pour mon premier, pour le recueil de nouvelles qui a été édité, très franchement, je l'ai envoyé à peu d'éditeurs et plutôt à des éditeurs qui sont intermédiaires entre l'auto-édition et les éditeurs classiques, on va dire, parce que j'étais un peu persuadée que ça serait compliqué d'être édité, voilà, toujours mon problème de confiance. Et puis là, pour le coup, j'ai eu beaucoup de bons retours de lecteurs et lectrices sur mon recueil de nouvelles et je les en remercie. Parce que ça aide aussi à se dire que bah, finalement,
ça encourage.
On a peut-être une plume qui vaut le coup d'être lue, donc ça encourage beaucoup. Et alors, ben là, j'ai envoyé à beaucoup d'éditeurs, sous format papier, sous format numérique, enfin en fonction de leurs exigences. Voilà.
Et puis, donc là, c'est tout récent.
Là, c'est tout récent. Les derniers sont partis la semaine dernière.
D'accord. Donc là, vous êtes en attente de réponse.
Et puis, bon, voilà. Après, c'est vrai que j'ai fait les choses correctement aussi. J'ai eu ce qu'on appelle des bêta-lecteurs.
Oui.
Donc, qui ont relu et qui m'ont aidé sur la correction et qui aussi ont donné leur avis sur la forme et le fond du roman. Voilà.
Très bien. Bah, écoutez, vous nous tiendrez au courant.
Oui, après, c'est vrai que c'est un...
De la suite.
Pour le coup, c'est un roman qui est beaucoup plus autobiographique,
oui.
Celui-là.
Mm-hmm.
Il s'appelle « Mais que fait la cigogne ?» Entendez par là la cigogne qui apporte les bébés.
Oui.
Et en fait, il reprend de manière romancée, puisque ce n'est pas mon histoire à moi, mais l'histoire de deux personnages inventés. Mais il reprend en fait tout mon parcours à l'hôpital pour avoir un enfant, en ce qu'on appelle la PMA, la procréation médicalement assistée. Voilà, puisque j'ai eu énormément de mal à avoir ma fille. Donc voilà, donc c'est romancé. Ce n'est pas dramatique parce que ce n'était pas le but, mais pour le coup, il est bien autobiographique, celui-là.
On sait que ces parcours sont quand même longs et compliqués parfois.
C'est
hein.
Ça, ah oui, tout
bon.
À fait.
Bon, vous avez quand même eu votre fille qui est, au bout du compte, la merveille de ce parcours.
La bonne récompense.
Oui, absolument. Fabrice Milleraud, est-ce que c'est le parcours du combattant, les éditeurs?
Ben écoutez, je dois être un mauvais exemple parce que non, ça n'a pas été le parcours du combattant pour deux raisons. La première, c'est que étant mère, il y a tout un certain nombre de bouquins que j'ai écrits, des petits bouquins que j'ai écrits sur les monuments de Beaumont, sur le cimetière, qui ont été édités soit par la commune, soit par le cercle.
Ah oui.
J'avais la chance d'être ami avec l'ancien directeur du régional, Monsieur Dupaquier, qui était également responsable d'une maison d'édition qui a également pris en charge deux des ouvrages que j'ai écrits. Et puis pour les trois derniers, aux éditions Sutton, ils ont pris contact avec moi, donc j'ai eu qu'à dire oui.
Voilà, donc pour vous c'était très fastoche, comme on dit.
Bah, disons, en l'état actuel des choses, oui.
Très bien, bah écoutez, bravo. RM, donc je me suis aussi posé une question, puisque vous êtes là avec nous. Comment le prix d'un livre se fixe-t-il? Puisque quand on édite un livre, alors peut-être que Fabrice pourra nous en dire un mot aussi, mais qui fixe le prix du livre?
Alors, certainement pas les auteurs, je
pense. Oui.
Je pense que c'est lié, ce sont plutôt les éditeurs, c'est lié à la quantité de pages
c'est
aussi.
Ça. Le nombre de lignes.
Le nombre de lignes, etc. Ouais.
D'accord, d'accord. Je pense que c'est lié à tout voilà, ça. C'est une question qui m'est passée par la tête. Vous, Fabrice?
Mais alors, je vous rejoins tout de suite. C'est certainement pas les auteurs, c'est l'éditeur.
C'est ensuite, dommage. C'est...
Bon,
non, je plaisante.
Oui. On aurait peut-être tendance à baisser le prix.
Oui. Alors, bon, moi, il y a un certain nombre de mes ouvrages qui étaient gratuits puisque c'était tiré par la commune. Je vois pour les éditions Sutton, donc où c'était l'éditeur qui a pris tout en charge. Il y a trois parts à peu près. Il y a une part de l'éditeur pour couvrir ses frais. Il y a une part pour l'auteur, toute petite. Et puis ensuite, il y a une part pour le libraire.
Oui, bien sûr.
Et quant à la part pour l'éditeur, ça dépend en effet du nombre de pages, ça dépend si c'est du noir et blanc ou de la quadrille, ça dépend du format de l'ouvrage, ça dépend aussi du mode de fonctionnement. fonctionnement de la maison d'édition, s'ils ont un imprimeur qui leur est lié, si, etc. Enfin,
il y a plein de paramètres.
Il y a beaucoup de critères et de paramètres que je ne saurais pas vous énumérer.
Très bien. J'imagine que la quantité de photos, comme vous dites, si c'est...
aussi, oui,
oui,
doit,
oui, bien sûr.
Doit, si c'est
bien
juste sûr. Du texte ou de la photo, ça doit jouer.
Merci RM, auteur d'un recueil de nouvelles qui s'intitule Menu Découverte, une dégustation en 9 nouvelles qui se lit avec plaisir, surtout si vous aussi vous donnez la parole à des objets qui vous accompagnent au quotidien. Merci d'avoir été l'invité de l'économie en direct et puis je le redis, mais vous nous tiendrez informés de la suite de l'édition de votre roman.
Merci.
Voilà, l'émission est bientôt terminée. Avant de nous quitter, peut-être un mot de conclusion avant de nous séparer. Fabrice Milroy.
Écoutez, ma conclusion va être très simple. Venez au Salon du Livre.
Oui.
Il sera intéressant. Vous pourrez, d'une part, rencontrer tous les auteurs, les maisons d'édition, les associations, discuter avec eux, acheter les ouvrages. C'est bientôt Noël, c'est bientôt le jour de l'an.
Oui.
Alors, quel
c'est
meilleur cadeau qu'un ouvrage dédicacé par l'auteur. Donc, et puis, ce sera un agréable moment avec les conférences dans une salle qui est très, très sympa. Et venez, voilà, venez nombreux. Venez très nombreux.
Mais écoutez, j'espère que votre message sera bien entendu. Un salon du livre qui aura lieu donc après-demain, le 27 novembre, à la salle Léo Lagrange de Beaumont-sur-Oise, de 10h à 18h. Marlène Erlem, un mot de conclusion avant de nous quitter?
Eh bien, moi, je vais me permettre de faire mon autopromotion, puisque en amont du Salon du Livre Historique, donc ce soir, je fais une conférence sur la Première Guerre mondiale à Beaumont-sur-Oise. Donc, ça introduit un petit peu le salon. C'est un sujet qui intéresse beaucoup, en règle générale, les gens, puisque c'est quelque chose de concret sur une période qui est assez fascinante. La conférence aura lieu à 20h, donc à la Maison des Associations. À Beaumont-sur-Oise. Donc, il y a un livre aussi qui a été écrit sur ce sujet-là et qui sera également en vente lors du Salon du Livre Historique.
Un livre écrit par vous-même?
Oui, tout à fait.
Ah, très bien. Bon, alors, excusez-moi, j'ignorais que vous aviez écrit ce livre. Fallait me le dire, j'en aurais parlé plus longuement. Mais bon, ça se retrouvera forcément dans le podcast de l'émission. Merci Marlène LM et puis bonne conférence alors.
Merci beaucoup.
RM, un mot de conclusion?
Ben, tout d'abord, merci de m'avoir reçu. Et puis, effectivement, j'ai écouté très attentivement donc les deux autres invités. Et je suis tout à fait d'accord, ça donne très envie d'aller à ce Salon du Livre donc après-demain. Et je m'efforcerai de m'y rendre, si possible, avec ma fille, du coup, puisque j'ai bien entendu que ça serait aussi accessible pour les plus jeunes. Et puis, leur donner, de toute façon, la passion du livre assez tôt, c'est une bonne chose.
Il n'y a pas meilleur cadeau, je crois.
Exactement. Et puis, en ce qui me concerne, sachez que le contrat avec mon éditeur se termine bientôt. Donc, mon recueil de nouvelles ne sera bientôt plus édité d'ici la fin de l'année. Donc, ceux à qui ça aurait donné envie, eh bien... c'est maintenant.
Oui, écoutez, moi, je le recommande complètement. On passe un très, très bon moment en lisant ces nouvelles.
Merci.
Merci à tous les trois pour vos témoignages et puis vos croisements d'expérience. Donc, encore une fois, je rappelle que dimanche se tiendra le Salon du Livre Historique de 10h à 18h à Beaumont-sur-Oise, un événement à ne pas manquer et que le livre de RM s'intitule « Menu découverte ». Merci Sabrina pour votre technique, votre assistance à la technique. Merci à vous tous d'avoir été à notre écoute. Cette émission vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Retrouvez-en l'intégralité avec son podcast sur radioidfm.fr. Et tout de suite, la balade musicale par Christophe Gravreau. Mardi, nouveau rendez-vous de l'économie en direct à 9h30. Bon week-end et continuez de prendre soin de vous et de vos proches. Thank you.